Europe Midi, Romain Desarbres.
12h30, bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. L'effondrement de l'immeuble de Sanary a fait un mort. Il y a encore deux disparus sous les décombres. L'explosion est probablement due au gaz. Nos informations, et puis nous serons en direct avec la sous-préfète du Var. La campagne de rappel vaccinal. Les Français préfèrent le vaccin Pfizer au Moderna. Et dans certains centres, on vous prévient, malgré le fait que vous ayez réservé une vaccination avec du Pfizer, on peut vous injecter du Moderna. Comment est-ce possible? Peut-on refuser? On en parle dans un instant avec le professeur Casalino. Le début de campagne de Valérie Pécresse, salué par un bond dans les sondages. Comment ça s'explique? Je poserai la question à Louis Dragnel. On va parler des SUV également, qui représentent près d'une vente de voitures sur deux dans le monde. On verra ce qui fait le succès de ces voitures associées à la famille et aux loisirs. Et justement, le temps, tiens, avec vous Anissa Haddadi. La tendance, le temps change cet après-midi. Hein.
Oui, après une matinée relativement calme hein, sur l'ensemble du pays, on a une nouvelle perturbation qui arrive cet après-midi et qui va toucher toute la moitié ouest du pays. Les pluies seront accompagnées de gros coups de vent avec même un risque de vagues submersion. Sur la moitié est, c'est beaucoup plus calme et donc du coup beaucoup plus frais.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
Ça s'est passé en pleine nuit, 3h50 du matin, l'explosion dans un immeuble sur le port de Sanary-sur-Mer dans le Var. On a appris dans la matinée qu'il y avait un mort. Océane Théard avec nous. Bonjour Océane.
Bonjour.
Les recherches sont toujours en cours. Hein.
Oui, une centaine de pompiers du Var sont toujours sur place avec du renfort des pompiers des Bouches-du-Rhône et des marins-pompiers de Marseille. Ce matin, ils ont localisé et dégagé des décombres cet homme de 30 ans décédé dans l'explosion. Plus tôt, les pompiers avaient secouru une mère et son bébé de 9 mois, tous les deux blessés. Et pour l'instant, aucune certitude, mais cet homme pourrait être le père de famille. D'autre part, 3 blessés légers ont été transportés à l'hôpital ce matin et les équipes de secours sont toujours à la recherche de 2 autres personnes prises au piège de cet immense amas de pierres et de béton. C'est tout ce qu'il reste de cet immeuble du centre-ville donnant sur le port. La déflagration très puissante a réveillé en sursaut les habitants du quartier, raconte un voisin. Pour l'instant, les causes de cette explosion ne sont pas connues. Les pompiers ont évoqué une odeur de gaz en arrivant sur place cette nuit, mais sans plus de précision, une enquête de police est en cours.
Merci beaucoup Océane. On est en direct avec Audrey Graffaut, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet du Var. Bonjour madame, merci d'être avec nous. On le voyait à l'instant avec Océane, les pompiers qui sont arrivés sur place cette nuit ont senti du gaz. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que c'est une piste sérieuse?
Bonjour, bonjour. En effet, à 3h50 ce matin, on a déploré sur le port de Sanary-sur-Mer une explosion qui a entraîné la destruction d'un immeuble d'habitation. Alors effectivement, c'est une piste, hein, vous l'avez rappelé dans vos propos préliminaires. Cela étant, à ce stade, nous n'en savons pas plus, c'est l'enquête qui le déterminera. Effectivement, c'est une piste.
C'est une piste. Il reste encore 2 victimes sous les décombres, hein.
Oui, alors concernant le bilan provisoire, alors les recherches sont toujours en cours hein, afin de retrouver d'éventuelles victimes. Elles ont d'ailleurs pu reprendre il y a une demi-heure environ, puisqu'elles avaient été interrompues pour pouvoir sécuriser l'un des bâtiments et permettre le travail des secours. Donc sur le bilan provisoire, nous avons effectivement une personne décédée qui a été extraite des décombres. 2 personnes sont encore recherchées. 5 autres avaient été prises en charge ce matin par les services médicaux. 2 extraites des décombres et médicalisées par le SMUR de Toulon. Et 9 personnes avaient également été évacuées des immeubles attenants et prises en charge par des proches. Alors, elles ont été prises en charge et relogées par des proches, mais la mairie de Sanary avait également ouvert un gymnase qu'elle avait mis à disposition des victimes éventuelles.
Combien de pompiers sont mobilisés?
Alors nous avons une centaine de sapeurs-pompiers du Var, des Bouches-du-Rhône et du bataillon des marins-pompiers, hein, puisque la solidarité interdépartementale a joué. Et ils sont également renforcés par des militaires du ministère de l'Intérieur de l'USC7 qui sont en train d'arriver sur place également. Donc là, c'est un renfort qui est décidé par le niveau national du ministère de l'Intérieur. Et pour ce qui est des équipes médicales, nous avons 2 équipes médicales du SMUR qui sont sur place. Et par ailleurs, la zone est sécurisée par 25 policiers nationaux et des policiers municipaux, et des engins ont été réquisitionnés et sont arrivés sur place très tôt ce matin, dont une grue notamment qui permet de sécuriser l'ensemble des travaux de déblaiement.
Merci beaucoup Audrey Graffo, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet du Var. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. C'est le choc évidemment à Sanary. Sanary qui est un charmant port de pêche et les habitants sont tristes. Hein. L'immeuble se trouve sur le port, hein, sur la promenade. Il n'y a pas beaucoup de monde forcément. Alors, en ce moment, il y en a énormément l'été. Voilà, bon courage à tous ceux et à tous les habitants de Sanary auxquels on pense. 12h35, on va parler de la vaccination. À présent, la vaccination des 5-11 ans qui est enclenchée. Vous avez entendu le Premier ministre hier soir, les enfants les plus fragiles à partir du 15 décembre et les autres dans la foulée sur la base du volontariat. Benjamin Péter, vous êtes allé à la rencontre des parents à Toulouse. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce qu'ils vont faire vacciner leurs enfants?
Eh bien, la plupart des parents que j'ai rencontrés ne l'envisagent pas du tout pour le moment. C'est notamment le cas d'Edith qui ne veut même pas entendre parler du vaccin.
Impossible. Moi, ma fille, elle ira pas à l'école s'il faut. Je suis vraiment contre moi-même, je ne suis pas vaccinée, donc je vois pas pourquoi je vaccinerai ma fille. Il n'y a rien qui est sûr. Et puis, s'ils ne sont pas source de contamination, donc ouais. Pourquoi on devrait les vacciner?
Alors, beaucoup, comme Charlotte, qui est maman de deux enfants, sont eux-mêmes vaccinés, mais pas question d'infliger ça à sa fille de 6 ans, même si ça l'empêche d'aller au restaurant ou au cinéma.
Ah, bah tant pis, hein, c'est pas grave. Elle fera le ciné à la maison.
Ils sont trop petits. C'est ouais. Un vaccin qui n'a pas vraiment de recul. Alors les vaccins les obligatoires, là c'est bon, mais celui-là non. Pour moi, il n'y a pas de souci, mais pas pour mes enfants.
Certains pourtant sont prêts à passer le pas. C'est le cas de Bertrand. Il espère pouvoir faire vacciner son fils de 9 ans le plus vite possible.
Je suis prêt à le faire. Ma fille a été vaccinée, l'aînée, hein, qui était éligible. On ne s'est pas posé la question. Donc s'il faut le faire pour le petit, oui. Hein, ouais. Si ça peut permettre de limiter la diffusion du virus, hein, et de protéger les autres aussi et de nous protéger un peu plus, oui, on le fera. Si on ne fait rien, on va continuer à vivre comme des reclus.
Voilà, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, expliquait hier soir que le gouvernement espérait pouvoir ouvrir la vaccination à tous les 5-11 ans dès le 20 décembre.
Benjamin Péter à Toulouse. À propos de vaccination, la majorité des Français demandent du Pfizer, mais il faut aussi écouler le stock de Moderna, de vaccin Moderna. Le vaccin Moderna qui a moins la cote. Des centres de vaccination envoient des textos aux patients pour les prévenir et les mettre en garde. Le message est le suivant: l'État allouant majoritairement des doses de Moderna, votre injection sera soit en Pfizer, soit en Moderna. En clair, vous réservez du Pfizer et vous avez du Moderna. Professeur Casalino, bonjour. Merci d'être avec nous, directeur médical à l'APHP. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Pourquoi cette pression mise sur les Français pour qu'ils se fassent vacciner avec du Moderna?
Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est vraiment une pression, mais Moderna et Pfizer, tous les deux sont des vaccins ARN messager. Donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'ils sont interchangeables. Moderna a eu moins d'expérience que Pfizer. Pfizer, c'est le premier qui s'est positionné. Il y a eu une bonne acceptation de la part de la population. Et je pense que ces dernières semaines, les informations sur un risque de myocardite, des effets indésirables extrêmement peu fréquents, mais ils sont inquiétants malgré tout, même si toutes les formes n'étaient pas des formes sévères, il n'y avait pas eu de décès rapporté.
Chez des jeunes, on est d'accord.
Le fait d'avoir dit que c'est les moins de 30 ans, il valait mieux l'éviter, ça crée un petit vent d'inquiétude dans la population générale. Moi, franchement, pour moi, il n'y a pas de souci. En respectant le fait que c'est pour les plus de 30 ans, c'est quand même une question de prudence, mais qui existe. Il n'y a pas de souci, vous pouvez parfaitement vous faire vacciner avec Moderna. En termes d'efficacité, c'est moins, même un peu mieux, un peu plus efficace que Pfizer. On parle de quelques pourcents, hein, au lieu de 95%.
Parce qu'il est un peu plus dosé en principe actif, le Moderna. Hein. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a aussi un peu plus de réactions.
Voilà, mais un peu plus dosé. La deuxième dose, elle est un peu moindre. Les doses de rappel sont un peu moindres.
Les doses de rappel, c'est un peu moins. Qu'est-ce que ça fait si on a reçu deux injections de Pfizer, première et deuxième dose, et qu'on reçoit du Moderna en dose de rappel?
Alors, il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs publications qui tendent à dire que le fait d'utiliser un vaccin en rappel différent des deux premiers pourrait même avoir une meilleure efficacité. Par exemple, les Australiens proposent, après Pfizer ou Moderna, le AstraZeneca. Donc, il n'y a aucun problème d'avoir eu un vaccin X dans les deux premières et le vaccin Y dans la troisième. Pour certains, ça serait même mieux.
Ça serait même mieux. Bon, bah écoutez, vous êtes plutôt rassurant si on vous écoute. Professeur Casalino, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, directeur médical à l'APHP et chef de la réa de l'hôpital Bichat à Paris. Il est 12h40. Conséquence des annonces de Jean Castex hier soir également, des annulations en série de pots de fin d'année et autres réunions. Vous avez entendu le Premier ministre nous dire qu'il faut lever le pied sur les interactions sociales. Le mot n'est pas terrible. En réalité, ça veut dire qu'il faut voir moins de monde avant Noël pour se préserver. Résultat, le chiffre d'affaires des traiteurs est sacrément en baisse. Élise Dangean, avec nous. Bonjour Élise.
Bonjour.
Vous avez les tout derniers chiffres.
Oui, ils ont été actualisés cette nuit. Ils sont plutôt préoccupants. 700 annulations comptabilisées en moins de 2 semaines, soit une perte de chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros. Et selon les traiteurs de France, ce n'est que le début. Les annonces du gouvernement hier soir, qui demandent notamment aux Français d'éviter les moments festifs d'ici à Noël, ne vont pas aider. Pour les discothèques, qui vont-elles devoir fermer pour un mois à partir de vendredi, c'est 20% du chiffre d'affaires annuel qui part en fumée. Un point avec Alain Griset, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, est prévu à 13h. Autour de la table, les représentants des discothèques, évidemment, des traiteurs et plus largement du monde de l'événementiel. Les voyagistes sont également en discussion avec Bercy. Objectif, mettre en place des aides très ciblées. On est vraiment là dans le quoi qu'il arrive, promis par Bruno Le Maire, en lieu et place du quoi qu'il en coûte, avec l'espoir d'un retour rapide à la normale grâce à la troisième dose du vaccin.
Élise Dangean, merci beaucoup Élise. Il est 12h42, restez bien avec nous sur Europe 1. On va parler de la campagne de Valérie Pécresse qui démarre bien, elle a fait un bond dans les sondages. On va en parler avec Alexandre Chauveau et Louis Dragnel. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
12h44, que se passe-t-il chez les Républicains? Deux vice-présidents des Républicains se sont vus retirer leur titre de vice-président. Hein, Guillaume Pelletier et Gaël Perdriot, le maire de Saint-Étienne. Pourquoi? Pour des prises de position qui se sont éloignées de la ligne du parti, comme on dit. Alexandre Chauveau avec nous. Bonjour Alexandre.
Bonjour Romain.
Ça illustre les débats internes chez les Républicains.
Hein. Oui, Guillaume Pelletier avait encensé Éric Zemmour dimanche. Comment rester insensible à son discours? Tweetait ainsi le député du Loir et Cher. De son côté, Gaël Perdriot s'en était pris à Éric Ciotti, tenant selon lui d'une droite identitaire et repliée sur elle-même. On a là typiquement les deux lignes qui s'affrontent en sous-main chez LR, un grand écart idéologique que Valérie Pécresse va devoir réaliser pour espérer l'emporter. Alors est-ce une mission impossible? Réponse d'Agnès Evren, porte-parole des Républicains.
Moi je pense au contraire que Valérie Pécresse est la seule capable de faire la synthèse de la droite sociale à la droite forte. C'est pour ça que nous devons avoir un message unis et additionner nos talents, additionner nos forces, parce que nous considérons que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise.
La décision prise ce matin par Christian Jacob a en tout cas fait l'unanimité, fait-on savoir, chez les Républicains, qui tentent de dédramatiser ces deux destitutions. Valérie Pécresse, à elle, fait son retour en comité stratégique, accueillie très chaleureusement par tous les dirigeants du parti, au premier rang desquels Nadine Morano et Laurent Wauquiez.
Merci Alexandre. Il faut bien noter que Gaël Perdriot et Guillaume Pelletier restent chez les Républicains. Ils ne sont pas exclus, on leur retire juste leur titre de vice-président. Louis Dragnel, Valérie Pécresse démarre sa campagne et elle monte dans les sondages. Elle arrive même au second tour dans le sondage IFOP fiducial pour le Figaro où elle est créditée de 17% des intentions de vote, soit un bond de 7 points. C'est beaucoup. Avec 17%, elle est même à égalité, Louis, avec Marine Le Pen. Hein.
Absolument, on peut même parler de coude à coude. Alors la différence quand même entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse, c'est que Marine Le Pen baisse de 2,5 points, effectivement, là où Valérie Pécresse progresse de 7 points. Donc la bonne nouvelle pour Valérie Pécresse, c'est que enfin la droite peut se qualifier au deuxième tour de la présidentielle. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas toujours le cas dans les sondages. Donc pour l'instant, il faut quand même préciser que c'est à ce stade, puisque c'est une photographie à un instant T. Mais rappelons, insistons quand même sur le fait qu'une hausse de 7 points dans les sondages, c'est beaucoup, c'est même rare. On peut donc parler d'un vrai effet depuis sa désignation comme candidate des Républicains pour la présidentielle. C'est très important pour Valérie Pécresse, parce qu'en politique, on le dit souvent, souvent, mais c'est vrai, il est fondamental d'avoir une dynamique, car ça montre que ce qu'on dit ou ce qu'on fait a un impact. Alors, ça ne veut pas pour autant dire que c'est gagné d'avance, l'élection est dans 5 mois, puis il faut mesurer à quel point parfois c'est toujours un peu fragile. Mmh. Hier, après une maladresse laissant entendre qu'elle ne reprendrait pas les propositions du programme d'Éric Ciotti, Valérie Pécresse est allée chez le député des Alpes-Maritimes avec un message. Son ancien concurrent aura une place particulière dans son équipe de campagne. En clair, elle l'a compris et elle l'a expliqué. Valérie Pécresse doit et va composer avec Éric Ciotti.
Louis, au second tour, toujours dans ce sondage, c'est même elle qui est la plus à même de battre Emmanuel Macron.
Absolument. Donc ça, c'est aussi un deuxième enseignement du sondage.
Elle ne bat pas ce jour dans ce sondage, mais c'est elle qui a le meilleur score.
Absolument. Emmanuel Macron reste le gagnant à ce stade dans ce sondage. Mais il faut quand même préciser qu'on est là dans ce qu'on appelle la marge d'erreur. C'est-à-dire que quand il y a un tel écart, aussi, l'écart est aussi serré, pour les sondages, c'est difficile d'avoir une vraie précision pour savoir qui réellement peut l'emporter. Mais ce qui est intéressant en ce moment, c'est que l'électorat de droite est très liquide. Emmanuel Macron cherche à mordre les Républicains. Éric Zemmour veut récupérer les déçus de Marine Le Pen et l'électorat d'Éric Ciotti. Et Marine Le Pen, le vote populaire est celui d'Éric Ciotti. Donc, pour bien comprendre, on est encore dans des vrais sables mouvants de la vie politique et rien n'est encore stabilisé pour le moment.
Voilà, c'est-à-dire qu'elle est donnée à 48% au second tour dans ce sondage IFOP fiducial pour le Figaro et le président de la République à 52%, 48-52, il y a 4 points d'écart. Merci beaucoup Louis. Il ne manque plus que lui, alors que quasiment tout le monde s'est déclaré pour 2022, le président de la République n'a toujours pas dit s'il se présentait ou pas pour un second mandat. Toujours est-il, ça ne l'empêche pas de faire des déplacements qui ressemblent à s'y méprendre, à des déplacements de campagne, comme aujourd'hui à Vierzon dans le Cher. Où vous vous trouvez, Jacques Seret? Jacques, Emmanuel Macron va au contact des habitants. Hein,
oui, déambulation dans le centre-ville et selfie par dizaines pour le chef de l'État.
Bonjour. Et vous? Ça va? Qu'est-ce que vous faites?
Santé, monsieur le président, lui lance une femme au balcon, un verre de rouge à la main. Emmanuel Macron au contact, mais sous bonne escorte. Il remonte une avenue de la République quadrillée de barrières de sécurité et se rend dans les commerces qui se trouvent sur son passage quand un habitant l'interpelle.
Il y a un bureau de poste qui a fermé, on a un hôpital qui est en souffrance, il y a une manifestation du médico-social qui est là-bas.
Vous savez, c'est pour ça qu'on se bat.
Je sais bien, mais il faut aller encore plus vite, plus fort, et puis sortir le carnet de chèques surtout.
Et on va tous le faire ensemble, plus vite, plus fort.
Ouais, mais il faut sortir le carnet de chèques pour que les gens d'ici puissent se chauffer l'hiver.
Il y en a qui parfois trouvent qu'on le sort trop.
Référence à peine voilée à sa nouvelle adversaire à la présidentielle, Valérie Pécresse, qui lui reproche de cramer la caisse. Alors Emmanuel Macron ne serait-il pas lui aussi bel et bien en campagne? La question lui a été posée.
À chaque fois que je me déplace, parfois pour le meilleur et d'autres fois pour le pire, je vais au contact de nos compatriotes pour écouter les difficultés, parfois les colères, d'autres fois les propositions ou les enthousiasmes, mais j'ai toujours fait ça.
Oui, mais là vous êtes en campagne
depuis le début. J'ai toujours fait ça depuis le premier jour.
Le locataire de l'Elysée réfute. Toujours est-il que rarement une déambulation aura duré aussi longtemps. Plus de 2 heures qu'elle a débuté et c'est toujours en cours. Emmanuel Macron a même pris le temps de prendre un café.
On saura tout. Merci beaucoup Jacques Seret. Jacques Seret dans les rues de Vierzon, dans le Cher, avec le président de la République. Merci Jacques. 12h50, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on va parler du succès des SUV. Vous êtes peut-être en voiture. Les SUV, ça représente une vente de voitures sur deux, quasiment une vente de voitures sur deux dans le monde. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Je voulais qu'on revienne sur le succès des SUV qui représentent exactement 45% des ventes de voitures dans le monde. On découvre aujourd'hui dans une étude de l'Observatoire CTLM les raisons de ce succès. Des automobilistes de 17 pays dans le monde ont été interrogés. On leur a demandé pourquoi ils voulaient acheter un SUV. Aurélien Fleureau avec nous. Aurélien, qu'est-ce qui explique ce succès des SUV ?
Alors, ce qui revient en priorité, ce sont les 3 critères d'achat d'une voiture, le prix, la fiabilité et le design. Et selon les réponses des automobilistes, le SUV coche toutes les cases. Ces voitures sont chères, oui, mais pour 72% des personnes interrogées, il s'agit du meilleur rapport qualité-prix. Cette étude montre que les propriétaires de SUV roulent plus que la moyenne. Et en 15 ans, ces voitures ont petit à petit remplacé les monospaces, précise Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'Observatoire CTLM.
C'est un véhicule qui est jugé spacieux, donc qui
répond parfaitement aux besoins des familles. Et le SUV a pris le segment des monospaces familiaux qui aujourd'hui ne représente plus beaucoup de ventes en réalité. Et puis aussi, il apporte la notion de confort, d'espace et de sécurité jugée comme étant très important par les acheteurs de SUV. Et c'est vrai que ces véhicules, évidemment, répondent parfaitement à ces exigences.
Autre constat de l'Observatoire, le critère environnemental est très peu cité par les automobilistes, y compris ceux qui ne possèdent pas de SUV. Et malgré les critiques sur ces grosses voitures qui prennent de la place sur les voies, eh bien leur part de marché devrait encore augmenter, en particulier avec l'arrivée massive de SUV 100% électriques.
Aurélien Fleureau, merci Aurélien. On va parler foot maintenant, pas d'enjeu sportif, mais un enjeu d'orgueil pour le Paris Saint-Germain. Ce soir, les Parisiens affrontent Bruges en dernier match de poule de la Ligue des Champions. Ça sera à 18h45. Jean-François Pérez avec nous. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Le PSG est déjà qualifié, donc ça c'est fait, mais il va devoir prouver ce soir qu'il sait encore gagner en quelque sorte.
Exactement, c'est une équipe vexée qui va tenter de boucler cette phase de poule sur une victoire. Vous le savez, le jeu laisse à désirer, Messi plutôt décevant. Neymar blessé, évidemment. Un milieu de terrain souvent dépassé quand Verratti est absent. Une défense friable. Un entraîneur aussi, Maurizio Pochettino, qui est pointé pour son manque de personnalité. Ses mauvais choix. Hier, en conférence de presse, au micro de Cédric Chasseur, le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, a poussé ce qui ressemble quand même à un petit coup de gueule.
Les gens critiquent toujours que l'on joue bien ou que l'on joue mal. Ils trouveront quelque chose à dire. On respecte ces critiques, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il faut essayer d'abord de bien s'entendre entre nous et ensuite suivre l'idée de l'entraîneur et la mettre en pratique. Cela exige un certain temps, il faut être patient. Petit à petit, le jeu va s'améliorer, les gens pourront prendre du plaisir. Et nous aussi.
Voilà, et quand on parle plaisir, on pense tout de suite à Kylian Mbappé, le meilleur parisien. Cette saison, l'arbre qui cache la forêt des insuffisances parisiennes, il sera là ce soir, à la différence de Sergio Ramos, qui est une nouvelle fois blessé. L'objectif de ce match, c'est de laver le petit affront de l'aller. C'était un match nul un partout en Belgique face à l'équipe la plus modeste du groupe. C'était en septembre et on a l'impression que le Paris Saint-Germain n'a guère avancé depuis.
Merci beaucoup Jean-François Pérez. Cette information qui tombe à l'instant, Guy Forget en fin
et dont
de
j'ai eu confirmation il y a quelques minutes.
Voilà, qui quitte ses fonctions de directeur des tournois de Roland-Garros et du Masters 1000 de Paris. C'est ce qu'annonce la Fédération française de tennis.
On connaîtra son successeur dans quelques jours.
Merci Jean-François. 12h57, le temps tout de suite. Anissa Haddadi, les perturbations s'enchaînent.
Oui, c'est un véritable défilé de perturbations. Celle d'hier s'est échappée ce matin par le nord-est. On avait quelques petits flocons sur l'Alsace, le Jura, les Vosges et même les Alpes du Nord. Et déjà, cet après-midi, nous avons une nouvelle perturbation très active qui touche toute la moitié ouest. Donc, entre la Normandie et les Pyrénées, nous avons des pluies importantes. La Gironde, le Poitou-Charentes, le Cotentin sont touchés par des pluies très soutenues. En plus des précipitations, nous avons du vent, le vent qui souffle depuis ce matin à l'ouest et qui va s'intensifier cet après-midi avec sur le littoral entre les Hauts-de-France et la Vendée des rafales jusqu'à 110 km/h. Attention aussi au gros coefficient de marée. Sur la moitié est, on a un temps plus calme avec un ciel qui reste brumeux sur le golfe du Lion, des entrées maritimes tenaces toute la journée et puis de belles éclaircies quand même sur l'Alsace et la Corse, c'est là que la journée sera la plus belle. On va surveiller de près le sud-ouest avec un risque de vague submersion également. Les températures, 6 à Belfort, 7 à Lille et Lyon, 9 du côté de Paris, 13 à La Rochelle, Brest et Quimper, 14 à Marseille et 15 degrés pour Biarritz, Bastia ou encore Nice.
Anissa Haddadi, merci Anissa. Il est 12h58, on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Dans un instant, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Très bon après-midi sur Europe 1.